Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Qu'adviendra-t-il de la Légion du Christ, la puissante congrégation fondée par le Mexicain Martial Maciel à l'origine d'un scandale retentissant? Son avenir va se jouer ces semaines prochaines à Rome, au cours d'un chapitre général extraordinaire, aboutissement d'un long travail de discernement. Il sera désormais plus difficile de bénéficier du titre de Monseigneur. Le pape François veut engager l'Église sur la voie de la simplicité et du dépouillement. Il a décidé de supprimer quelques titres honorifiques. Les chrétiens d'Orient, quant à eux, seront à l'honneur de ce magazine. Ceux qui suivent le calendrier julien ont fêté Noël ce mardi. Ce mercredi 8 janvier que s'ouvrira à Rome le chapitre général extraordinaire des légionnaires du Christ, préparé depuis des mois dans la prière, l'étude et le travail. Une soixantaine de prêtres de 11 nationalités différentes vont se réunir sous la présidence du délégué pontifical, le cardinal Velasio de Paolis, chargé par Benoît XVI de diriger la congrégation et de l'accompagner dans son chemin de révision interne. Les participants se trouvent déjà à Rome depuis le 31 décembre pour participer à une retraite préparatoire de 8 jours. Xavier Sartre.
Après le choc des révélations concernant le fondateur des Légionnaires du Christ, Martial Maciel, Benoît XVI avait mandaté en 2009 une visite apostolique de 5 évêques dans les 10 provinces de la congrégation. Un véritable séisme pour cette congrégation dynamique et influente. Toutes les maisons furent visitées et un grand nombre de ses membres entendus. Il s'agissait notamment de discerner jusqu'à quel point la personnalité du fondateur avait pu avoir une influence sur l'institution et les religieux. Un an plus tard, le cardinal de Paolis, délégué pontifical, mettait en place à Rome une commission centrale de révision des constitutions composée de prêtres légionnaires du Christ et d'experts externes. Un brouillon des constitutions a été transmis à tous les religieux en juin 2013, puis retravaillé par des assemblées provinciales. Parmi les grands thèmes qui ont émergé, la simplification des structures de gouvernement et d'administration, la liberté intérieure et la confiance mutuelle, l'intégration de l'apostolat des prêtres dans les programmes pastoraux diocésains. À partir de mercredi, les participants au chapitre général extraordinaire seront appelés à travailler sur le nouveau texte des constitutions pour le valider et le présenter à l'approbation du pape François. Ils devront également élire le nouveau gouvernement général de la congrégation. Il est prévu que le chapitre général se termine vers la fin du mois de février, avec l'espoir qu'ils parviennent à tourner une des pages les plus douloureuses de l'histoire récente de l'Église.
En plus des participants par office, à savoir les supérieurs généraux et provinciaux, des délégués de chaque province ont été élus par tous les membres prophètes de la congrégation. De nouvelles normes ont été mises au point pour l'octroi des titres ecclésiastiques honorifiques dans les diocèses et de l'appellation Monseigneur. La secrétaire d'État du Saint-Siège a adressé une lettre circulaire aux nonciatures pour leur demander d'informer les épiscopats. Dorénavant, dans les diocèses, les titres ecclésiastiques honorifiques, accompagnés du qualificatif Monseigneur, ne seront plus attribués qu'au chapelain de sa sainteté et uniquement aux prêtres âgés de plus de 65 ans. L'appellation Monseigneur continuera d'être liée à certaines charges importantes, par exemple à celle des évêques et des vicaires généraux des diocèses. Aucun changement, en revanche, en ce qui concerne la curie romaine, où les titres et qualificatifs Monseigneur sont reliés à certaines charges et aux services requis. Pas de nouveauté non plus en ce qui concerne les décorations pontificales prévues pour les laïcs. Ces nouvelles normes n'auront pas d'effet rétroactif, ceux qui ont déjà reçu un titre pourront donc le garder. En 1968 déjà, Paul VI avait ramené à 3 le nombre jusque-là beaucoup plus important des titres ecclésiastiques honorifiques. La décision du pape François se situe donc sur la même ligne, dans un souhait de simplification. partie de l'Orient chrétien était dans la joie de la nativité ce mardi 7 janvier. Les chrétiens fêtent en effet Noël à deux dates différentes, certains le 25 décembre, d'autres le 7 janvier. Une histoire de calendrier est à l'origine de cette différence. En Égypte, en Russie ou dans les Balkans, les églises orthodoxes et orientales qui suivent le calendrier julien célèbrent Noël le 7 janvier. Celles qui suivent le calendrier grégorien, notamment les latins, le 25 décembre. Audrey Radondi.
Si l'Occident est tenté parfois d'effacer Dieu de sa mémoire, l'Orient reste fidèle à la foi de ses pères. En ces terres, la religion fait partie intégrante de l'identité de chacun. Portée par la communauté, la foi a une dimension sociale tout autant que spirituelle et se transmet de génération en génération malgré les aléas de l'histoire. Difficile pourtant de faire la fête dans des pays comme la Syrie ou l'Irak où les chrétiens vivent dans la peur, la violence et souvent dans le dénuement le plus complet. Mort, enlèvement, brutalité. Les deux métropolites d'Alep sont toujours retenues en otage, comme les 12 moniales orthodoxes du monastère de Maloula, comme des centaines de chrétiens aux mains des milices. En Égypte, secouée par des violences, la communauté copte a beaucoup souffert ces derniers mois. Des églises ont été incendiées, des villages attaqués. Et pourtant, une lueur d'espoir éclaire ce sombre tableau. Le président égyptien Adli Mansour a posé un geste d'apaisement en allant présenter ses vœux au patriarche orthodoxe Tawadros en la cathédrale Saint-Marc. C'était la première fois qu'un président égyptien pénétrait dans cette cathédrale.
En Turquie, les chrétiens sont inquiets quant à l'avenir de la basilique Sainte-Sophie, monument phare d'Istanbul et musée depuis 1934 sur décision d'Atatürk. Elle pourrait bien redevenir la mosquée qu'elle fut sous l'Empire ottoman. C'est du moins l'idée suggérée par certains caciques de l'AKP, le parti de la justice et du développement, au pouvoir en Turquie. Plusieurs voix se sont déjà élevées pour exprimer leur totale réprobation. Parmi ces voix, celle du patriarche écuménique de Constantinople, Bartholoméos Ier, et celle de la Grèce. Pour certains, le gouvernement Erdogan joue la carte Sainte-Sophie en vue des prochaines élections locales. Pour d'autres, cette idée participe de la politique de réislamisation de la société, pleinement assumée par l'AKP. Pour Sébastien Ducourtois, historien et spécialiste des minorités chrétiennes en Turquie, il est de toute façon dangereux de jouer avec les symboles.
La question de Sainte-Sophie est une question qui dépasse très largement le cadre des seuls Grecs orthodoxes. Pour moi, il s'agit véritablement d'un monument qui appartient à l'humanité. C'est d'ailleurs le mot qu'avait utilisé lui-même Atatürk en 1934 lorsqu'il avait signé la loi qui transformait ce bâtiment religieux en musée. Je crois qu'il faut revenir à la source de ce texte fondateur et qui, d'une certaine manière, a protégé l'édifice jusqu'à nos jours en le déconfessionnalisant et en faisant un lieu de rencontre, finalement, plus qu'un lieu de division.
Reconvertir Sainte-Sophie en mosquée, certains voient dans cette idée un véritable tournant islamiste du gouvernement Erdogan. C'est une idée que vous partagez ?
Le tournant islamiste, il est très clair depuis 2002, c'est-à-dire depuis l'élection de l'AKP en Turquie, depuis qu'ils sont au pouvoir. N'oublions pas que Tayyip Erdogan était maire d'Istanbul juste avant et qu'il avait déjà mis en place des mesures très symboliquement fortes par rapport à la place de l'islam en politique, ce qui est quand même un problème dans une république séculariste et laïque. Et cet événement, disons ce non-événement qui sont ces déclarations, on espère que ça ne va pas aller plus loin, est effectivement un signal encore plus fort dans le sens d'un réveil de la guerre des symboles. Je parle bien de l'islam politique, je ne parle pas de l'islam religieux et même spirituel, parce qu'il n'en est absolument pas question dans cette façon de voir la politique. Ce sont des gens qui utilisent les symboles à bon escient pour rassembler les troupes derrière eux. Je ne suis pas certain qu'une majorité de Turcs soit favorable à cette idée. Tout un tas de gens qui s'en moquent complètement et des gens dans la rue qui vous disent « mais les mosquées sont déjà vides, qu'a-t-on besoin d'en construire d'autres ou d'en réouvrir d'autres ?»
Pour beaucoup, derrière cette idée de reconvertir Sainte-Sophie en mosquée se cache un objectif clairement électoral. Est-ce qu'il ne s'agit que de cela finalement ?
Non, je pense que vraiment certains veulent le faire. Il y a une minorité ici qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les camps, dans tous les partis politiques, qui tient à cette idée. Encore une fois, par rapport à une question de symbole, une question d'identité, on veut revenir à l'origine de ce bâtiment. C'est une église avant tout, il ne faut pas l'oublier. C'était la grande cathédrale de l'Empire romain d'Orient. Et un monument qui appartient à tout le monde, qui appartient à la ville, qui appartient aux Stambouliotes, quelle que soit leur confession, je pense. Il faut faire très très attention à manier des symboles qui peuvent être explosifs, surtout dans un contexte qui n'est pas simplement propre à la Turquie, où se pose effectivement la question de la place des religions. C'est un contexte international, un contexte proche-oriental. Et il faut voir aussi le poids international de cette mesure, c'est-à-dire que la Turquie actuelle, la Turquie islamiste, veut prendre un leadership régional dans le monde musulman par de telles déclarations.
Alors les esprits s'échauffent, les accusations fusent de part et d'autre, les protestations aussi. Quelle est la marge de manœuvre justement des opposants à cette idée de reconvertir Sainte-Sophie en mosquée ?
Je crois ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas réagir à ce genre de réaction par une autre provocation en sens inverse, qui serait de réclamer en échange la transformation de Sainte-Sophie en église, ce qu'elle est déjà de fait. C'est-à-dire qu'il faut rester sur la ligne de défense qui est la décision prise par Atatürk en 1934 d'en faire un musée. Beaucoup de bâtiments sont sous ce statut en Turquie. Nous avons déjà vu par contre des transformations, il faut le savoir. L'église de Sainte-Sophie de Trébizonde a été réouverte au culte musulman et l'église de Nicée, Iznik, la petite ville, où l'église aussi a été réouverte au culte musulman. Et toutes deux bénéficient d'un statut de musée. Donc ce sont des frontières qui sont vraiment très perméables et il faut effectivement faire attention. Et je crois que le patriarche œcuménique a eu absolument raison de manifester bruyamment son mécontentement. Mais tous les chrétiens, tous les gens dans le monde qui s'intéressent à la culture et au patrimoine doivent se sentir visés.
Sébastien De Courtois, historien et spécialiste des minorités chrétiennes en Turquie, interrogé par Manuela à Fiji. L'aventure Mille et une fois de Vincent Gelot se poursuit. Depuis septembre 2012, nous suivons le périple de ce jeune Français parti au volant de sa 4L à la découverte des chrétiens d'Orient. Depuis son départ du Liban, au lendemain du voyage de Benoît XVI, Vincent s'est rendu en Turquie, en Irak, dans les pays du Caucase, jusqu'en Iran et en Afghanistan. Il a aussi parcouru ces dernières semaines les pays du Golfe avant de poser ses valises à Djibouti, là où nous l'avons interrogé. Vincent a toujours la Terre Sainte en ligne de mire et son livre d'or avec lui, où les chrétiens qu'il rencontre écrivent souvenirs et prières. Récit de ses dernières étapes au micro d'Olivier Benel.
D'abord, je me suis rendu aux Émirats Arabes Unis, donc qu'on connaît avec des Émirats comme Dubaï, Abu Dhabi, enfin qu'on connaît souvent sous ce nom-là. Donc là-bas, faut savoir que les chrétiens qui vivent là-bas sont extrêmement nombreux. Ce sont surtout des Indiens, des Philippins, des gens qui viennent d'Asie, d'Occident, qui viennent travailler en fait aux Émirats, parce que les Émirats sont à 85% sont habités par des expatriés, des étrangers. Donc il faut savoir que l'église, juste pour en termes d'information, l'église de Dubaï, c'est la plus grande église du monde en termes de fréquentation. Vous avez plus de 15 langues, des messes célébrées dans plus de 15 langues, les sacrements se succèdent tous les jours, et des messes pratiquement à toutes les heures. À Abu Dhabi, par exemple, il est possible d'assister à une messe dehors qui est dite en malayala, mais dans l'église, une messe en arabe, puis derrière, vous avez des sacrements dans une autre langue. Enfin, c'est vraiment une vraie cour. Les églises sont des vrais cours des miracles, d'autant plus qu'en fait, les différents émirs des Émirats ont donné des terres aux chrétiens, toutes dénominations confondues. Donc ça veut dire que vous avez dans ces sept émirats, il y a Abu Dhabi, Dubaï, plus cinq autres, vous avez toutes les églises sont rassemblées dans un endroit. Donc vous avez par exemple les catholiques, les malabars, les protestants, les coptes, tout ça. Donc des fois vous avez, enfin tout ça, toutes les églises sont les unes à côté des autres. Donc, ce qui fait qu'il y a une vie incroyable, de jour comme de nuit, c'est assez incroyable, surtout par rapport aux endroits que j'avais visités précédemment, où c'était plutôt même en Afghanistan, où vous n'avez qu'une église, ou enfin dans tous les autres pays où c'est plutôt les chrétiens où la situation est vraiment très différente. Là, tout d'un coup, c'était complètement différent. Puis même en termes, au niveau de l'environnement, les Dubaï, les Émirats, on passe de pays d'Orient qui sont très traditionnel, l'Iran, l'Afghanistan, même les pays d'Asie centrale. D'un coup, on arrive dans des états complètement surréalistes avec des immeubles gigantesques, des malls, etc. Donc, c'était assez intéressant. Ensuite, je me suis rendu à Oman, qui est un pays à côté des Émirats. Donc, pareil, comme dans tous les pays, impossible qu'il n'y a pas de chrétiens omanais ou de chrétiens émiriens, quoi. Ce sont que des étrangers. C'était une très très bonne expérience. Il a fait pour l'aventure, j'ai eu très chaud dans ma 4L parce que j'y étais à partir du mois de septembre etc. Et donc c'était des chaleurs qui, dans ma 4L, j'ai pas d'air conditionné, donc ça montait jusqu'à 60 degrés et j'ai eu vraiment très très chaud.
Vous avez essayé aussi de rentrer au Yémen et là je crois que la réalité était très différente.
Voilà, en fait, bon, bah, au Yémen, déjà, il y a quelques chrétiens, mais c'est une des plus, c'est le pays où il y a quasiment le moins de chrétiens en Orient. C'est vraiment microscopique. Il y a on y trouve quelques sœurs de Mère Teresa, quelques églises à Aden, mais c'est très caché. Et en fait, bon, moi, j'ai eu une mésaventure, c'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai pas pu rentrer avec ma voiture, donc la voiture est partie en direction de Djibouti, ma prochaine étape, moi, je suis arrivé à l'aéroport et en fait, j'étais blacklisté. Donc, j'ai été arrêté pendant 48 heures par les autorités yéménites parce que, ils ont été mis au courant de mon projet. Je pense qu'ils ont intercepté des échanges de mails ou des choses comme ça. Donc, ça a été assez intense, on va dire.
Vous avez senti que vous étiez en danger à ce moment-là?
Vous savez, vous imaginez pas mal de choses. Hein, quand on vous prend votre passeport, votre téléphone portable et qu'on vous met entre deux barbus, Enfin, je pensais que j'allais faire de la prison, hein, clairement. Hein, les hubs là-bas, on rigole pas avec ça. Hein, je pensais que. Puis bon, j'ai eu très. Enfin, moi, j'étais quand même. Enfin, voilà, ça fait partie du voyage. Enfin, j'en ai conscience, mais j'avais surtout peur pour le livre, en fait, parce que j'ai quand même ce livre d'Orient qui recueille des prières et des témoignages depuis le début du voyage, qui voyage avec moi. Et en fait, j'étais très chanceux. Ils n'ont pas fouillé en fait mes affaires. Ils m'ont gardé moi, mais sans fouiller mes affaires. Je ne sais pas pourquoi. Et donc le livre, enfin, a été conservé. Et donc j'ai pu. Ils m'ont renvoyé sur un vol 48 heures plus tard.
Alors maintenant, aujourd'hui, vous êtes à Djibouti. Prochaine étape. Quelles sont un peu les perspectives?
Alors là, donc, écoutez, ça fait quand même maintenant, ça fait quasiment 16 mois que je suis parti, que j'ai quitté la France. En faisant tous ces pays tout seul. Là, il me reste donc la remontée, j'ai envie de dire, du continent africain vers la Terre Sainte. Donc, en gros, là, c'est Djibouti, l'Éthiopie, le Soudan, l'Égypte, la Jordanie et la Terre Sainte. Je me suis fixé d'arriver à Pâques 2014 à Jérusalem. Voilà.
Vincent Gelot et son aventure, 1001 fois. Les catholiques de Terre Sainte, quant à eux, se réjouissent de la venue du pape François fin mai. Selon le quotidien libanais L'Orient Le Jour, l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte, rassemblant les évêques latins et orientaux, a accueilli chaleureusement l'annonce par le Saint-Père de son pèlerinage dans la région. Dans un communiqué, ils se disent confiants que cette visite sera surtout un message d'amour et de fraternité pour tous les habitants des pays visités. Ils relèvent aussi le caractère œcuménique du prochain pèlerinage papal, annoncé 50 ans après la visite de Paul VI et sa rencontre historique avec le patriarche de Constantinople, Athénagoras. Ce voyage bref comportera 3 étapes, Amman, Bethléem et Jérusalem. Toujours selon L'Orient Le Jour, l'Église catholique de Terre Sainte apparaît soucieuse d'éviter toute récupération politique du voyage du pape François de la part d'Israël comme des Palestiniens. Quoi qu'il en soit, ce voyage en Terre Sainte sera l'un des temps forts de l'année qui vient de commencer pour ce pape auréolé d'une popularité exceptionnelle à travers le monde, au-delà même des cercles chrétiens. Sur l'agenda de cette année 2014 figure également une rencontre des cardinaux du monde en février, la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II au mois d'avril et le synode des évêques consacré à la famille au mois d'octobre. Le souverain pontife devrait aussi réformer la curie romaine, un chantier complexe. Depuis l'élection inattendue du pape François, les surprises n'ont cessé de pleuvoir. Il ne se passe pas une semaine sans que l'évêque de Rome ne bouscule les médias et les fidèles au point de susciter toutes les attentes concernant cette réforme à venir. Il faut dire que le pape François est surexposé dans les médias. Chaque mot, chaque geste est interprété et discuté. Son lieu de résidence, ses vêtements, ses moyens de transport sont au centre de l'attention. Mais sa pensée, ses décisions sont parfois interprétées de manière erronée, voire manipulée. Tout récemment encore, ses propos touchant la question de l'homosexualité ont été présentés à tort par les médias italiens comme une ouverture du pape François aux couples homosexuels. Beaucoup ont du mal à saisir la nouveauté réelle et profonde de ce pontificat. Ce pape miséricordieux vis-à-vis des pécheurs et si ouvert à l'égard des non-croyants est en réalité un homme très exigeant qui n'accepte pas les compromis. C'est la fin de cette émission, mais je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis.